Chapitre 59. Charleston, dimanche 10 mai 1981. Saul observait Justin et Nathalie dans le parc, écoutant la conversation retransmise par le micro que cette dernière avait placé sous le col de son chemisier, lorsque retentit un signal d'alarme. Il se tourna vivement vers l'ordinateur portable posé sur le siège à côté de lui, pensant une seconde qu'il devait s'agir d'une panne du boîtier de télémétrie, des électrodes ou des batteries, plutôt que de l'événement qu'ils avaient tous deux redouté. Un simple regard lui confirma que son équipement fonctionnait parfaitement. Le graphique montrait nettement l'apparition du rythme θ, les pics et les vallées du rythme alpha traduisaient l'entrée en phase de mouvement oculaire rapide. À ce moment-là, il trouva la réponse à la question qui le tourmentait depuis plusieurs mois et comprit en même temps que sa vie était en danger. Saul regarda au dehors et vit que Nathalie se tournait dans sa direction, alors même qu'il s'emparait du pistolet à fléchette, ouvrait la portière et s'éloignait du break à croupetons, s'efforçant d'interposer plusieurs véhicules entre Nathalie, le petit garçon et lui.
« Non, ce n'est pas Nathalie !» se dit-il.
Et il s'immobilisa derrière la dernière voiture garée dans le parking, à 7 ou 8 mètres du break. Pourquoi la vieille avait-elle décidé d'utiliser Nathalie? Saul se demanda si sa filature avait été assez discrète. Il ne pouvait pas laisser la Datsun s'éloigner. Le microphone et le transmetteur qu'ils avaient ajoutés à l'attirail de Nathalie avaient une portée inférieure à 800 mètres, et la circulation était pratiquement inexistante. Les succès de la semaine passée et l'expédition de la veille leur étaient montés à la tête. Saul jura à voix basse et s'accroupit pour observer Nathalie à travers les vitres d'une Ford Fairmont blanche. Elle se dirigeait vers le break, suivie à 15 pas de distance par le garçonnet qui avait ramassé une branche morte sur le gazon. Soudain, Saul éprouva une envie irrésistible de tuer l'enfant, de vider le chargeur de son Colt dans ce petit corps, d'en chasser les démons par la mort. Il inspira profondément. Il avait donné plusieurs conférences, à Columbia et ailleurs, sur l'étrange et perverse tendance de la violence contemporaine, telle qu'elle se manifestait dans des livres et des films, comme L'Exorciste, La Malédiction, et leurs innombrables imitations, remontant à Un bébé pour Rosemary. Saul percevait cette prolifération d'enfants démons comme le symptôme de peur et de haine enracinés dans l'inconscient. Les représentants de la génération du moi s'étaient révélés incapables d'endosser le rôle de parents responsables et de renoncer à leur propre enfance prolongée. Le sentiment de culpabilité inhérent au phénomène du divorce s'était vu transféré sur l'enfant, qui n'était pas vraiment un enfant, mais plutôt une créature ancienne et maléfique, susceptible de mériter les mauvais traitements résultant de l'égoïsme des adultes, et l'ensemble de la société s'était révolté avec colère après 20 ans de culture populaire dominée par et vouée à la jeunesse. Beauté des jeunes, musique de jeunes, films de jeunes, mythe médiatique de l'enfant adulte forcément plus calme, plus sage et plus branché que les adultes infantiles de la maisonnée. Saul affirmait par conséquent que la haine et la peur de l'enfant qui se manifestaient dans les livres et les films populaires avaient leurs racines dans des craintes et des anxiétés largement partagées, ainsi que dans l'angoisse universelle propre à l'époque. La vague de brutalité, de mauvais traitements et d'abandon dont étaient victimes les enfants américains, avertissait-il, avait des antécédents historiques et finirait par s'atténuer. Mais tout devait être mis en œuvre pour écarter et éliminer ce type de violence avant qu'il n'empoisonne le pays. Saul s'accroupit, regarda par la lunette arrière la répugnante créature qui avait été le petit Justin Warden, et décida de ne pas l'abattre. Pas encore. En outre, abattre un enfant de 6 ans dans un parc un dimanche après-midi était le plus sûr moyen de ne pas passer inaperçu. Nathalie s'approcha du break et regarda à l'intérieur, se penchant légèrement pour scruter la banquette arrière, tournant le dos à Saul. Au même instant, le petit garçon dirigea son regard vers les personnes assises autour d'une table toute proche. Saul se redressa, cala le pistolet à fléchette sur le toit de la Ford, tira et se baissa aussitôt. Il était sûr d'avoir raté sa cible, sûr qu'elle était hors de portée du minuscule pistolet à air comprimé, puis il aperçut les petites plumes rouges plantées dans le chemisier de Nathalie un instant avant qu'elle ne s'effondre. Il aurait voulu se précipiter vers elle, s'assurer que ni la drogue ni la chute ne l'avaient blessée, mais Justin se tourna dans sa direction et Saul se jeta à quatre pattes derrière la Ford, ouvrant fébrilement la petite boîte de fléchettes pour en insérer une dans le pistolet. Deux petites jambes nues s'immobilisèrent à 2 mètres de son visage. Il leva la tête à temps pour découvrir un gamin de 8 ou 9 ans en train de ramasser un ballon bleu. Le petit garçon regarda Saul, puis l'arme qu'il tenait.
« Eh, monsieur, vous allez tuer quelqu'un ?»«
Va-t'en !» siffla Saul.
« Vous êtes un flic ?»
demanda le garçonnet d'un air intéressé. Saul secoua la tête.
« C'est un pistolet Uzi, non ?»
insista le gamin en calant le ballon sous son bras.
« Ça ressemble à un Uzi avec un silencieux. »«
Va chier !»
murmura Saul, employant la réplique préférée des soldats britanniques en Palestine occupée lorsqu'ils étaient en butte aux gamins des rues. Le petit garçon haussa les épaules et retourna à ses jeux. Saul leva la tête à temps pour voir Justin s'éloigner du parking en courant, agitant sa branche morte devant lui. Saul prit une décision et se dirigea vers les tables de pique-nique, s'éloignant lui aussi des voitures. Il aperçut le tissu de la jupe de Nathalie qui gisait toujours sur le pavé. Il avança d'un bon pas, interposant un rideau d'arbres entre Justin et lui. Personne ne semblait avoir remarqué Nathalie pour l'instant. Deux motocyclettes pénétrèrent dans le parking en pétaradant. Saul avança en petite foulée, s'approchant d'une 12aine de mètres de l'endroit où se tenait Justin, acculé à la grille en fer forgé qui dominait le fleuve. Le petit garçon avait les yeux fixes, vitreux. Sa bouche était entr'ouverte et un filet de salive coulait sur son menton. Saul s'appuya contre un arbre, respira, et vérifia que son arme était chargée et prête à fonctionner.
« Hey !»
dit un homme vêtu d'un costume gris signé Brooke Brothers.
« Chouette jouet ! Il faut un permis pour ce truc-là ? » ?»«
Non. »
Saul jeta un coup d'œil derrière l'arbre pour s'assurer que Justin n'avait pas bougé. Le petit garçon, les yeux toujours dans le vague, était à 15 ou 20 mètres de lui. Trop loin.
« Pas mal !»
dit le jeune homme en costume gris.
« Ça tire des 22 ou des plombs ?»
Son compagnon, un jeune homme blond et moustachu, vêtu d'un costume bleu et coiffé avec soin, se joignit à la conversation.
« Où est-ce qu'on trouve ce genre de truc, mon vieux ? Dans un Kmart ?»«
Excusez-moi, »
dit Saul. Il fit le tour de l'arbre et se tourna vers la grille. Justin ne daigna même pas lui accorder un regard. Ses yeux vitreux étaient fixés sur un point situé au-dessus du parking. Saul cacha le pistolet dans son dos et longea la grille en direction de la silhouette figée du petit garçon. Il s'arrêta au bout de 20 pas. Justin ne bougeait toujours pas. Se faisant l'impression d'un chat traquant une souris en caoutchouc, Saul franchit les 15 pas qui les séparaient, brandit son pistolet et logea une fléchette aux plumes bleues dans la cuisse nue du petit garçon. Lorsque Justin s'effondra, toujours rigide, Saul était là pour l'attraper. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Il se retint de courir, mais regagna néanmoins le break d'un bon pas. Les deux motards aux cheveux longs étaient plantés sur le trottoir, les yeux fixés sur la forme inerte de Nathalie. Aucun d'eux ne faisait mine de l'aider.
« Pardon, s'il vous plaît. »
Saul se faufila entre eux, enjamba Nathalie, ouvrit la portière arrière gauche du break et posa délicatement Justin à côté des batteries et du récepteur radio.
« Hé, mec !» dit le plus gros des deux motards. « Elle est morte ou quoi ?»«
Oh non !»
Saul se força à glousser, souleva à grand-peine la jeune femme, l'installa sur le siège avant et la poussa dans l'habitacle.
Son soulier gauche glissa et tomba sur le pavage avec un bruit mat. Saul le ramassa et regarda en souriant les motards incrédules.
« Je suis médecin. Elle vient d'avoir une crise d'épilepsie bénigne induite par un œdème cardio-pulmonaire neurologiquement déficient. »
Il monta dans le break, posa le pistolet sur le siège et continua de sourire aux deux hommes.
« Le petit aussi. C'est de famille. »
Saul démarra et passa en marche arrière, s'attendant à voir une voiture transportant les zombies de Mélanie Fuller lui bloquer la sortie du parking. La rue était déserte. Saul fit le tour du quartier pour s'assurer qu'on ne le suivait pas, puis retourna au motel. Leur bungalow était presque invisible depuis la rue, mais il vérifia que celle-ci était déserte avant de les transporter à l'intérieur. D'abord Nathalie, et ensuite le garçon. Les électrodes de Nathalie étaient toujours en place, dissimulées par ses cheveux mais en état de fonctionnement. Le microphone et le boîtier de télémétrie fonctionnaient également. Saul examina l'ordinateur avant de le débrancher et de le sortir de la voiture. Le rythme θ avait disparu, ainsi que les pics caractérisant la phase de mouvement oculaire rapide. Les indications de l'électroencéphalogramme correspondaient bien à un profond sommeil sans rêve induit par la drogue. Après avoir transporté le matériel dans le bungalow, Saul installa confortablement Justine et Nathalie et mesura leur activité cérébrale. Il actionna le second boîtier, fixa des électrodes au crâne du garçonnet et lança le programme qui afficherait simultanément les deux graphes de l'électroencéphalogramme sur l'écran de l'ordinateur. Celui de Nathalie correspondait toujours à un état de sommeil normal. Celui de Justine était une ligne droite, traduisant un état de mort cérébrale clinique. Saul prit le pouls du petit garçon, mesura ses battements de cœur et ses réactions rétiniennes, puis sa tension artérielle, testa divers stimuli, sons, odeurs, douleurs. L'ordinateur n'indiquait toujours aucune trace de fonction cérébrale supérieure. Saul brancha boîtier et palpeur, vérifia les cellules du transmetteur, passa en mode d'affichage individuel et utilisa deux électrodes supplémentaires. Les résultats ne varièrent pas d'un iota. Justin Warden, 6 ans, était légalement mort. Son cerveau était réduit à un bulbe rachidien, assurant le fonctionnement régulier de son cœur, de ses reins et de ses poumons. Son corps n'était plus qu'une enveloppe vide. Saul se prit la tête dans les mains et resta un long moment dans cette position.
« Que faisons-nous ? » demanda Nathalie. Elle en était à sa deuxième tasse de café. Elle avait dormi presque 1 heure sous l'effet du tranquillisant, mais il lui avait fallu 1 quart d'heure de plus pour pouvoir penser clairement.
« Nous le gardons sous sédatif, je pense. Si nous lui permettons de se réveiller, Mélanie Fuller risque de reprendre le contrôle. » Le petit garçon qui s'appelait Justin Warden, ses souvenirs, ses attachements, ses craintes, tout ce qui faisait de lui un être humain, a disparu pour toujours.
« Tu en es vraiment sûr ?»
demanda Nathalie d'une voix pâteuse. Saul soupira, posa sa tasse de café et y ajouta un peu de whisky.
« Non, avoua-t-il. J'aurais besoin d'un matériel plus sophistiqué, de tests plus complexes, d'un registre d'observation moins limité. Mais vu les indications obtenues, je dirais qu'il est pratiquement impossible qu'il recouvre un embryon de personnalité humaine, sans parler de ses propres souvenirs. » Il but une longue gorgée.
« Et nous qui rêvions de la libérer ?»«
Oui. »
Saul reposa brutalement sa tasse vide. « Ça paraît sensé quand on y réfléchit. Plus le conditionnement effectué par la vieille est puissant, moins la personnalité du sujet a de chances de survivre. Je pense que les adultes fonctionnent avec un résidu de leur identité, de leur personnalité. Et il serait stupide de kidnapper toute une équipe médicale comme elle l'a fait, si elle n'avait pas accès au talent de ses membres. Mais même en ce cas, ce genre de contrôle mental, de vampirisme psychique, doit tuer la personnalité d'origine au bout d'un certain temps. C'est comme une maladie, un cancer de l'esprit qui ne cesse de proliférer, les cellules affectées éliminant les cellules saines. Nathalie frotta sa tête encore douloureuse. Est-il possible que certains de ces gens aient été moins contrôlés que les autres? Soient moins affectés que les autres? Saul écarta les doigts de la main pour exprimer sa perplexité. Possible? Oui, je pense. Mais s'ils ont été suffisamment conditionnés, altérés, pour qu'elle ait confiance en eux, je crains que leur personnalité et leur fonction supérieure n'aient été sérieusement endommagées. Mais l'Oberst t'a utilisé, dit Nathalie d'une voix neutre, et j'ai été agressée deux fois par cette sangsue de Harrod, et au moins deux fois par cette vieille sorcière. Et alors? Dit Saul en ôtant ses lunettes et en se frottant le nez. Alors, est-ce qu'ils nous ont altérés? Est-ce que le cancer prolifère dans notre cerveau? Est-ce que nous sommes devenus différents? Différents, Saul? Je ne sais pas. Il resta immobile jusqu'à ce que Nathalie détourne les yeux. Excuse-moi, mais c'était si horrible d'avoir cette vieille sorcière dans mon esprit. Jamais je ne me suis sentie plus impuissante. Ça doit être pire que le viol. Au moins, quand ton corps est violé, ton esprit continue de t'appartenir. Et le pire, c'est que, quand ça t'est arrivé une ou deux fois, tu... Nathalie était incapable de poursuivre. « Je sais, » dit Saul en la prenant par la main. « Une partie de toi-même désire que ça recommence. Comme une horrible drogue aux effets secondaires douloureux, mais engendrant une dépendance également forte. Je sais. Tu ne m'as jamais parlé de... Ce n'est pas quelque chose dont on souhaite discuter. Non. Nathalie frissonna. Mais ce n'est pas le cancer dont nous parlions tout à l'heure. Je suis sûr que cette dépendance est une conséquence du conditionnement poussé que ces créatures infligent à leur sujet élu. Ce qui nous amène à un nouveau dilemme.
Lequel?
Si nous suivons notre plan, il sera nécessaire d'infliger un tel conditionnement à au moins une personne innocente. Et peut-être à plusieurs. Ce ne serait pas pareil, ce serait temporaire dans un but bien précis. En ce qui concerne nos buts, ce serait temporaire. Mais nous savons à présent que les effets risquent d'être permanents.
Bon Dieu ! S'exclama Nathalie. Ça n'a aucune importance, c'est notre plan. Tu en vois un autre?
Non.
Alors nous continuons,
dit Nathalie avec fermeté.
Nous continuons même si ça doit nous coûter notre esprit et notre âme. Nous continuons même si d'autres innocents doivent en souffrir. Nous continuons parce qu'il le faut, parce que nous le devons à nos morts. Nos familles, les êtres qui nous étaient chers, ont payé le prix. Et maintenant nous continuons, leurs assassins doivent payer. Si nous renonçons, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Nous continuons quel que soit le prix à payer.
Saul opina. « Tu as raison, bien sûr, » dit-il avec tristesse. « Mais c'est précisément le même impératif qui pousse le jeune Palestinien à poser une bombe dans un bus, le séparatiste basque à tirer dans la foule. Ils n'ont pas le choix. Sont-ils si différents de tous les Eichmann qui ne faisaient que suivre les ordres? Ne renonce-t-il pas à toute responsabilité personnelle?
Non, ce n'est pas pareil. Et pour le moment, je suis trop frustré pour me préoccuper de ce genre de considérations éthiques. Je veux seulement savoir ce qu'il faut faire et le faire.
Saul se leva. S'il faut en croire Eric Hoffer, une personne frustrée renonce aux responsabilités plus facilement qu'à la retenue. Nathalie secoua la tête avec véhémence. Saul aperçut les filaments des électrodes qui plongeaient sous le col de son chemisier.
« Je n'ai pas l'intention de renoncer à mes responsabilités, » dit-elle. « Je prends mes responsabilités. En ce moment même, je suis en train de me demander s'il faut oui ou non ramener ce garçon à Mélanie Fuller. »
L'expression de Saul trahissait sa surprise.
« Le ramener ? Comment pouvons-nous faire une chose pareille ? Il...
« Il est en état de mort cérébrale, » coupa Nathalie. Elle l'a assassiné aussi sûrement qu'elle a assassiné ses deux sœurs. Il me servira quand je retournerai là-bas ce soir.
Tu ne peux pas retourner là-bas aujourd'hui, dit Saul en la regardant comme il aurait regardé une étrangère.
Il est trop tôt, elle est trop instable.
C'est pour ça que je dois y aller, tout de suite,
dit Nathalie avec fermeté.
Pendant qu'elle est encore sous le choc. La vieille est à moitié cinglée, mais elle n'est pas stupide, Saul. Nous devons nous assurer qu'elle est bien convaincue. Et il n'est plus temps de tergiverser. Je dois cesser d'être l'inconnu que je suis à ses yeux. Une messagère, une créatrice ambiguë, et devenir Nina Drayton dans l'esprit de ce vieux monstre.
Saul secoua la tête.
Nos hypothèses de travail sont encore fragiles et basées sur des informations incomplètes.
Mais nous n'avons que ça. Alors fonçons. Si nous sommes résolus à continuer, nous ne devons plus nous contenter de demi-mesures. Nous devons discuter, toi et moi, jusqu'à ce que j'aie trouvé quelque chose que seule Nina Drayton aurait su. Quelque chose qui surprendra même Mélanie Fuller.
Les dossiers de Wiesenthal? Dit Saul en se frottant le front d'un air absent.
Non, quelque chose de plus puissant. Quelque chose que tu aurais pu apprendre lors des deux séances que tu as accordées à Nina Drayton à New York. Elle jouait avec toi. Mais tu t'es quand même comporté comme un thérapeute. Les gens sont parfois plus ouverts qu'ils ne le croient.
Saul joignit les extrémités de ses doigts et regarda dans le vague pendant quelques instants.
Oui, il y a quelque chose.
Ses yeux tristes se fixèrent sur Nathalie.
C'est un risque terrible pour toi.
Nathalie hocha la tête.
Ensuite, nous passerons à la phase suivante. Et c'est moi qui serai malade en pensant au risque que tu vas prendre. Mettons-nous au boulot.
Ils parlèrent pendant 5 heures, passant en revue des détails dont ils avaient discuté à d'innombrables reprises, mais qui devaient à présent être aiguisés comme une épée de combat. Leur conversation s'acheva à 8 heures du soir, mais Saul suggéra à Nathalie d'attendre encore quelques heures.
« Tu penses qu'elle dort ?» demanda-t-elle.
« Peut-être pas, mais même un démon comme elle doit être assujetti aux toxines de la fatigue. Du moins, c'est le cas de ses pions. » En outre, nous avons affaire à une personnalité authentiquement paranoïaque, dont nous projetons d'envahir l'espace personnel, le territoire. Et la façon primitive dont ces vampires psychiques utilisent leur hypothalamus me pousse à croire qu'ils accordent une énorme importance à leur territoire. Dans ce cas, une invasion nocturne sera beaucoup plus efficace. Cela faisait partie des tactiques usuelles de la Gestapo.
Nathalie contempla les feuillets qu'elle avait noircis de notes. « Nous choisissons donc la paranoïa comme angle d'attaque ? Nous supposons qu'elle présente les symptômes classiques du schizophrène paranoïde. »
« Pas seulement. N'oublions pas que nous avons affaire à un degré zéro, selon Kohlberg. Mélanie Fuller est à bien des égards restée à la phase infantile de son développement. Peut-être est-ce le cas de tous ses semblables. » Leur talent parapsychique est une malédiction, en ce sens qu'il les empêche d'évoluer au-delà du niveau exigence-gratification immédiate. Tout ce qui s'oppose à leur volonté est inacceptable, d'où leur paranoïa et leur propension à la violence. Tony Harrod est peut-être plus avancé que la plupart d'entre eux, son talent s'est peut-être développé plus tardivement et avec moins de succès, mais il utilise son pouvoir limité à seule fin d'assouvir les fantasmes masturbatoires d'un préadolescent. Et outre l'ego infantile et la paranoïa avancée de Mélanie Fuller, nous devons prendre en compte le chaudron émotionnel de sa jalousie d'écolière et de son attirance homosexuelle refoulée pour Nina Drayton, telle qu'elle s'est exprimée par leur longue rivalité.
Génial! En termes d'évolution, ce sont des surhommes. En termes de développement psychologique, des attardés. Et en termes de développement moral, des sous-humains.
Pas sous-humains. Seulement non-existants.
Ils restèrent silencieux un long moment. Ni l'un ni l'autre n'avaient mangé depuis leur petit déjeuner. L'écran de l'ordinateur affichait le paysage tourmenté des pensées de Nathalie.
Saul s'ébroua.
J'ai résolu le problème du déclenchement des suggestions post-hypnotiques.
Nathalie se redressa sur son siège.
« Comment ça, Saul ? » ?»«
J'avais commis une erreur. En essayant de conditionner une réaction au rythme θ ou à la pointe alpha artificielle. Je ne peux pas créer le premier, et la seconde est trop peu fiable. C'est la phase de mouvement oculaire rapide en état de veille qui doit déclencher le processus.
Tu peux la reproduire en état de veille?
Peut-être. Mais ce n'est pas encore assez fiable. Au lieu de cela, je vais développer un stimulus intermédiaire, un son de cloche peut-être, et utiliser la phase MOR naturelle pour le déclencher.
Des rêves?
Dit Nathalie d'une voix songeuse. Auras-tu assez de temps?
Presque un mois.
Si nous pouvons convaincre Mélanie de conditionner les gens dont nous avons besoin, je dois pouvoir convaincre mon propre esprit de se conditionner lui-même.
Mais tous ces rêves que tu feras, les mourants, le désespoir des camps de la mort...
Saul eut un pauvre sourire.
Je fais déjà ces rêves.
Il était minuit passé lorsque Saul conduisit Nathalie dans le vieux quartier, se garant à une centaine de mètres de la maison Fuller. Le break était vide de tout matériel électronique. Nathalie ne portait ni microphone ni électrode. La rue et le trottoir étaient déserts. Nathalie attrapa Justin sur la banquette arrière, écarta tendrement une mèche de cheveux de son front et se pencha vers la vitre ouverte pour dire à Saul
« Si je ne ressors pas de là, exécute le plan comme prévu. »
Saul indiqua d'un hochement de tête la banquette arrière où était posé un large ceinturon portant 10 kilos de C4 répartis en petits paquets.
« Si tu ne ressors pas de là, j'irai te chercher. Si elle t'a blessé, je les tuerai tous et je ferai de mon mieux pour exécuter le plan comme prévu. »
Nathalie hésita puis lâcha
« D'accord. »
Elle se retourna et emporta Justin vers la maison qui n'était éclairée que par une lueur verte émanant du premier étage. Nathalie posa le garçonnet inconscient sur l'antique divan. La maison sentait la poussière et la moisissure. La famille de Mélanie Fuller s'était rassemblée autour d'elle. Parmi les cadavres ambulants, on comptait le colosse aux allures de débile mental que la vieille appelait Kelley, un petit homme aux cheveux roux qui était sans doute le père de Justin, même s'il ne lui avait pas fait l'aumône d'un regard, deux infirmières vêtues de blouses blanches crasseuses, dont l'une était si mal maquillée qu'elle ressemblait à un clown aveugle, et une femme vêtue d'un chemisier à rayures déchirées qui jurait avec sa jupe imprimée. La pièce n'était éclairée que par la bougie crachotante que Marvin venait d'apporter. L'ex-chef de bande tenait un long couteau dans sa main droite. Nathalie Preston s'en fichait. Son organisme était si saturé d'adrénaline, son cœur battait si fort, son esprit était si imprégné de la personnalité qu'elle avait reconstituée au fil des semaines et des mois, qu'elle ne souhaitait qu'une chose, passer à l'action. N'importe quoi était préférable à cette longue période d'attente, d'angoisse, de fuite.
« Mélanie, »
dit-elle avec son plus bel accent de débutante sudiste,
« voilà ton petit jouet. Ne recommence plus jamais. »
La masse de chair blanche, répondant au nom de Kelley, s'avança lourdement pour examiner Justin.
« Est-il mort ? » ?»«
Est-il mort ?»
répéta Nathalie en imitant sa voix.
« Non, ma chère, il n'est pas mort. Mais il pourrait l'être, il devrait l'être, et toi aussi. » « Mais à quoi pensais-tu donc ?»
Kelley marmonna une réponse, prétendit avoir douté de sa qualité d'émissaire de Nina. Nathalie éclata de rire.
« Ça te dérange que j'utilise une noire ? Ou bien es-tu jalouse, ma chère ? Pour autant je m'en souvienne, tu n'aimais pas non plus Barrett Kramer. As-tu jamais aimé un seul de mes nombreux assistants, ma chère ?»
L'infirmière au visage de clown prit la parole.
« Prouve-moi qui tu es !»
Nathalie se tourna vivement vers elle.
« Ça suffit, Mélanie »
hurla-t-elle. L'infirmière recula d'un pas.
« Choisis une bouche pour t'exprimer et arrête d'en changer. Je suis lasse de cette comédie. Tu as perdu tout sens de l'hospitalité. Si tu tentes encore de t'emparer de ma messagère, je tuerai le pion que tu auras choisi pour cela. Et ensuite... « Je m'attaquerai à toi. »
Mon pouvoir a considérablement cru depuis que tu m'as abattue, ma chère. Ton talent n'a jamais été l'égal du mien, et tu n'as désormais plus aucune chance de te mesurer avec moi.
Tu as compris ?
Nathalie hurla cette question en direction de l'infirmière aux joues bariolées de rouge à lèvres, qui recula à nouveau d'un pas. Nathalie se retourna, regarda l'un après l'autre chaque visage cireux, et s'assit sur la chaise la plus proche de la table basse.
« Mélanie, Mélanie, pourquoi faut-il que nous nous querellions ? Je t'ai pardonné de m'avoir tué, ma chérie. Sais-tu à quel point la mort peut être douloureuse ? Sais-tu à quel point il m'est difficile de me concentrer depuis que ton pistolet antique m'a logé un morceau de plomb dans le cerveau ? Si je peux te pardonner cela, comment peux-tu être assez stupide pour nous mettre en danger ? Willy, toi, nous tous, au nom de ces vieilles rancunes. Passons l'éponge, ma chère, ou, par Dieu, je brûlerai cette tanière, je la raserai, et je me débrouillerai sans toi. »
5 pions de Mélanie étaient présents dans la pièce, sans compter Justine. Nathalie était presque sûre qu'il y en avait d'autres à l'étage, au chevet de la vieille, et peut-être également dans la maison des Hodges. Lorsqu'elle cessa de crier, les 5 pions eurent un sursaut nettement visible. Marvin se cogna à une haute vitrine de bois et de cristal. Les assiettes en porcelaine et les figurines délicates frémirent sur les étagères. Nathalie avança de 3 pas et fixa du regard le visage clownesque de l'infirmière. « Regarde-moi, Mélanie. » C'était un ordre pur et simple. « Me reconnais-tu ? » Les lèvres fardées remuèrent faiblement.
« Je ne... C'est difficile de... »
Nathalie hocha lentement la tête. « Après toutes ces années, tu as encore des difficultés à me reconnaître. »
« Mélanie, es-tu repliée sur toi-même au point de ne pas te rendre compte que personne d'autre que moi ne pourrait savoir autant de choses sur toi, sur nous ? Ou qu'un autre que moi se contenterait de t'éliminer à cause du danger que tu représentes ?»«
Willy !»
articula l'infirmière clown.
« Ah, Willy, notre cher Wilhelm. Penses-tu que Willy soit assez rusé pour monter une telle supercherie, Mélanie ? Penses-tu qu'il soit assez subtil ?
Willy n'aurait-il pas réglé ses comptes avec toi, comme il l'a fait avec cet artiste, à l'hôtel impérial de Vienne ?» L'infirmière secoua la tête. Le rimel coulait de ses yeux. Elle s'en était appliquée une telle couche que son visage ressemblait à une tête de mort à la lueur de la bougie. Nathalie se pencha vers elle, effleura sa joue bariolée et murmura
« Mélanie, si j'ai assassiné mon propre père, penses-tu que j'hésiterais à te tuer si tu te dressais à nouveau sur mon chemin ?»
Le temps sembla se figer dans la maison obscure. Nathalie aurait pu se trouver dans une pièce peuplée de mannequins abîmés et mal fagotés. L'infirmière clown battit des paupières, délogeant ses fossiles, roulant lentement des yeux.
« Nina, tu ne m'avais jamais dit ça. »
Nathalie recula, stupéfaite de sentir les larmes couler sur ses joues.
« Je ne l'ai jamais dit à personne, ma chère, »
murmura-t-elle. Sachant que sa vie était perdue si Nina Drayton avait parlé à son amie Mélanie de ses confidences au docteur Lasky.
J'étais furieuse contre lui. Il attendait le tramway. J'ai poussé.
Elle leva vivement les yeux, les rivant à ceux vitreux de l'infirmière.
Mélanie, je veux te voir.
Le visage bariolé alla de gauche à droite.
C'est impossible, Nina. Je ne me sens pas bien. Je...
« Ce n'est pas impossible, » répliqua sèchement Nathalie. « Si nous devons œuvrer ensemble, en toute confiance, je dois m'assurer que tu es ici, bien vivante. » À l'exception de Nathalie et du garçonnet encore inconscient, toutes les personnes présentes secouaient la tête à l'unisson.
« Non, impossible, je ne me sens pas bien, »
dirent simultanément 5 bouches.
« Adieu, Mélanie, »
dit Nathalie, et elle fit demi-tour vers la porte. L'infirmière se précipita vers elle et la grippa par le bras avant qu'elle l'ait atteinte.
« Nina, ma chérie,
Ne pars pas, je t'en prie. Je suis si seul ici. Il n'y a personne pour jouer avec moi.
Nathalie resta rigide, envahie par la chair de poule.
« D'accord, »
dit l'infirmière au visage macabre.
« Par ici. Mais d'abord, pas d'armes, rien. »
Keles s'approcha de Nathalie et la palpa, lui comprimant les seins de ses grosses mains, faisant ramper ses doigts le long de ses jambes, la touchant partout, fouillant, sondant. Nathalie ne le regarda pas. Elle se mordit la langue pour refouler le cri hystérique qui montait dans sa gorge.
« Viens !»
dit l'infirmière. Et conduit par Quelet qui avait attrapé la bougie, les processionnaires allèrent du salon au hall d'entrée, du hall d'entrée au grand escalier, de l'escalier au palier, où leurs ombres se dressèrent sur le mur haut de 3,50 mètres, aboutissant à un couloir aussi noir qu'un tunnel. La porte de la chambre de Mélanie Fuller était fermée. Nathalie se rappela le jour où elle était entrée dans cette chambre, 6 mois plus tôt, le pistolet de son père dans la poche de son manteau, et où elle avait entendu des bruits dans le placard où s'était caché Saul Lasky. Il n'y avait pas de monstre dans la maison ce jour-là. Le docteur Hartmann ouvrit la porte. Un soudain courant d'air éteignit la bougie. Et la scène ne fut plus éclairée que par la douce lueur verte des moniteurs, placés de part et d'autre du grand lit à baldaquin. De fins voiles de dentelle pendaient du ciel de lit, tels des linceuls pourris, telle l'épaisse toile dissimulant la tanière d'une veuve noire. Nathalie avança 2-3 pas, et le médecin leva une main crasseuse pour lui intimer l'ordre de s'arrêter sur le seuil. C'était bien assez près. La créature allongée dans le lit avait jadis été une femme. Une grande partie de ses cheveux était tombée par paquets, mais ceux qui subsistaient étaient soigneusement coiffés et s'étalaient sur l'immense oreiller comme une aura d'un bleu maladif. Son visage était celui d'une momie, flétrie, marbrée de plaies et creusée de rides cruelles. Sa partie gauche affaissée, comme un masque mortuaire en cire que l'on aurait trop approché des flammes. Sa bouche édentée s'ouvrait et se refermait sans cesse comme la gueule d'une tortue plusieurs fois centenaire. L'œil droit de la créature ne cessait de rouler, se fixant de temps en temps sur le plafond pour ne laisser voir ensuite que sa sclérotique, un œuf enchâssé dans un crâne, protégé par un lambeau flasque de parchemin jauni. Derrière le voile grisâtre, le visage se tourna vers Nathalie. Sa gueule de tortue émit un bruit de clapotement.
« Je rajeunis sans cesse, n'est-ce pas, Nina ?»
dit l'infirmière clown derrière Nathalie.
« Oui. »«
Je serai bientôt aussi jeune qu'avant la guerre, à l'époque où nous allions tous au Simple. Tu t'en souviens, Nina ?»«
Simple, oui, à Vienne. »
Le médecin leur fit signe de repartir, referma la porte. Ils restèrent un instant sur le palier. Soudain, Quelet tendit son énorme main et prit gentiment celle de Nathalie.
« Nina, ma chérie, »
dit-il d'une voix de fausset presque aguicheuse,
« je ferai tout ce que tu voudras de moi. Dis-moi ce que je dois faire. »
Nathalie s'ébroua, regarda sa petite main emprisonnée dans celle de Quelet. Elle serra la poigne du colosse, lui tapota le bras de sa main libre.
« Demain, Mélanie, je t'emmènerai faire une autre promenade. Justin sera réveillé et en pleine forme si tu souhaites l'utiliser. »«
Où irons-nous, Nina, ma chère ?»«
Commencez nos préparatifs. »
Nathalie serra une dernière fois les mains calleuses du géant et se força à descendre d'un pas mesuré l'escalier infiniment long. Marvin montait la garde près de la porte, les yeux ternes et inexpressifs, un long couteau à la main. Lorsque Nathalie arriva dans l'entrée, il lui ouvrit la porte. Elle fit halte, utilisa les ultimes ressources de sa volonté pour lever les yeux vers le groupe de monstres qui l'observait dans le noir depuis le palier, sourit et dit
« Adieu, et à demain, Mélanie.
Ne t'avise plus de me décevoir. »
« Non, » dirent les cinq pions à l'unisson. « Bonne nuit, Nina !»
Nathalie se détourna, sortit, laissa Marvin lui ouvrir le portail et partit sans se retourner une seule fois, même lorsqu'elle passa près du break où l'attendait Saul, inspirant profondément à plusieurs reprises, refoulant ses sanglots par la seule force de sa volonté.